Salutations fraternelles à toutes et tous. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Eva. Avec mon mari Frédéric et mes enfants Élise et Raphaël, on habite à Tiercé, pas très loin d'ici. Peut-être aurez-vous noté la ressemblance, et je suis aussi la sœur de votre frère David, ici présent, avec sa famille. Et notre maman à côté. Merci Bernard, merci de me donner l'occasion d'apporter la parole à mes frères et sœurs du Colombier. Je suis très heureuse de pouvoir servir le Seigneur parmi vous. Gardons les yeux fixés sur Jésus, c'est le titre que j'ai choisi pour ce message. Il aurait pu aussi s'appeler l'agneau de Dieu. Je vais m'attacher à suivre mes notes, sinon je crains de dépasser le temps qui m'a été imparti. Vous m'excuserez, mais je vais garder les yeux sur mes notes. Sinon je me connais et ceux qui me connaissent le savent. Alléluia. Permettez-moi de prier avant de commencer à parler et joignez-vous à moi. Prions ensemble. Père, notre Père, nous nous appuyons sur ton affection maintenant, l'affection que tu as mise sur ton Fils. Tu as dit en lui, j'ai mis toute mon affection et nous sommes dans ton Fils. Alors Seigneur, parle-nous ce matin, fais que ces paroles soient esprit et vie. Nous avons, tu le dis, la pensée de Christ, et c'est ce que nous voulons ce matin. Communique-nous la pensée de Christ, nous la possédons déjà, qu'elle soit manifestée, Seigneur. Et nous rejetons toute pensée religieuse, tout esprit de religiosité, afin de percevoir et de jouir de ta pleine parole. Seigneur, merci pour ton amour, Papa. Amen. Jésus a dit, ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Et il a dit également, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Ici, le message est clair. Et nous le savons tous, Jésus nous demande de faire la volonté du Père, notre Père. Non comme une contrainte, mais de la même façon que Jésus a toujours fait la volonté de son Père, il a fait cette volonté comme on mange la nourriture, comme on mange pour vivre. C'est ainsi qu'il a fait la volonté de son Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est ainsi que nous aussi, nous sommes appelés à faire sa volonté. Mais quelle est la volonté du Père ? Quelle est la volonté du Père ? Frères et sœurs, cette volonté, Dieu ne nous a rien caché. Nous avons un Dieu qui parle. Elle est exprimée clairement dans les deux premiers commandements. Dans Matthieu 22, 34 à 40, disons, en apprenant que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, les pharisiens se réunirent. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. » Amen. Vous êtes d'accord avec moi que ces deux commandements parlent d'amour ? de l'amour. Alors dans ce cas, mes amis, tout est dit, la chose est dite, tout découle de l'amour. Puisque le Seigneur Jésus dit à la fin dans le verset 40, tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes, tout, Jésus ne parle pas au hasard, les mots ne sont pas au hasard, tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Donc, tout. Notre connaissance de Dieu, notre communion intime avec lui, notre transformation intérieure, corps, âme, esprit, à la ressemblance de Jésus, notre zèle ardent pour le royaume, mais aussi les merveilleuses manifestations de puissance du Seigneur, les guérisons, les miracles, les prodiges, les révélations, bref, le feu, le réveil, tout cela trouve son fondement dans l'amour. Dans l'amour. Tout. Jésus, lui, il a accompli ces deux commandements. Il les a accomplis. Il a accompli la volonté du Père. Et maintenant, c'est à notre tour. C'est à notre tour maintenant de faire sa volonté en appliquant ces deux commandements. En sommes-nous capables ? En sommes-nous capables ? Moi, j'aurais tendance tout de suite à dire non, franchement. Non. Mais voici ce que nous dirons. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Philippiens 4, 13. Et qui est celui qui me fortifie ? Qui est celui qui me fortifie ? C'est celui-là même qui a accompli les deux commandements pleinement. C'est lui qui me fortifie, Jésus-Christ de Nazareth. Puisque c'est lui qui nous fortifie pour pouvoir accomplir les commandements, frères et sœurs, puisque c'est lui, il nous faut garder les yeux fixés sur lui. Il nous faut garder les yeux fixés sur lui. Il nous faut nous arrêter pour le regarder. Pour le regarder. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous arrêter pour le regarder ? Regardez Jésus. C'est ce que je vous propose ce matin. Ensemble, voulez-vous bien que l'on regarde le Seigneur Jésus ? Et que voyons-nous ? Que voyons-nous ? Hébreux 12, 2 sera notre verset principal ce matin. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Là, dans ce passage de l'Écriture, nous voyons un Christ, on nous demande, Paul nous demande, enfin Paul, c'est pas Paul, c'est l'auteur de la lettre aux Hébreux, on peut supposer que c'est Paul, mais on ne sait pas. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous demande de garder les yeux fixés sur Jésus, mais quel Jésus nous présente-t-il dans ce verset ? Nous voyons un Jésus, un Christ crucifié. Il a accepté de mourir sur la croix. Nous voyons un Christ dépouillé. Et nous expliquerons pourquoi. Et nous voyons un Christ amoureux. Et nous expliquerons aussi pourquoi. C'est ce Christ-là qui nous fortifie dans notre course spirituelle. Vous remarquerez que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit de garder les yeux fixés sur Jésus. Il aurait pu nous présenter un Jésus ressuscité, par exemple. Un Jésus glorieux, éclatant de gloire, triomphant, pour qu'on garde les yeux fixés sur ce Jésus-là, non ? Ça aurait pu être ça, garder les yeux fixés sur le Jésus triomphant, glorifié, puissant. Mais ce n'est pas le choix qu'il a fait. Ce n'est pas le choix qu'il a fait. Vous savez, un jour, le Seigneur m'a fait la grâce d'ouvrir mes yeux pour que je croie en lui. Et c'était en 1996, à Aix-en-Provence, j'étais dans ma chambre d'étudiante. Et mon oncle m'avait, le frère de ma mère, m'avait envoyé une cassette. Il voulait que je me convertisse. À l'époque, c'était le temps des cassettes. Hein. Et cette cassette, il fallait que je l'écoute, mais ça faisait des mois qu'il me l'avait envoyée, je ne l'ai toujours pas écoutée. Puis un soir, je me suis décidée, j'ai dit, là, je vais l'écouter ce soir. Mais vraiment, voilà, pour lui faire plaisir. Et je me suis couchée dans mon lit, j'ai éteint la lumière, j'ai appuyé sur le bouton play. Et là, j'ai entendu un homme, un scientifique, qui racontait son témoignage. Et il a dit, voilà, Jésus est mort pour nos péchés à la croix. Quelque chose comme ça, très simple, très simple. Eh bien, ce jour-là, j'ai reçu la révélation du Seigneur, d'un coup. Et le Seigneur, il s'est présenté à moi, Jésus, je l'ai vu, en vision, les yeux ouverts, dans mon lit, je l'ai vu. Et vous savez, je n'ai pas vu un Jésus éblouissant, d'une blancheur éclatante. Oui, il était vêtu d'une silhouette blanche, il était revêtu de blancheur. Mais, frères et sœurs, il a choisi de me montrer sa douceur. J'ai vu la douceur de Jésus, une douceur surnaturelle qui n'est pas de ce monde. Dans cette blancheur, dans sa personne, il y avait une douceur qui émanait de lui. C'est une gloire beaucoup plus profonde que ce qui est éclatant. Et cette douceur était tellement empreinte d'autorité. Je ne peux pas l'expliquer. Mais c'est ce Jésus-là qui s'est présenté à moi. Très doux, mais quelle autorité. Et il m'a dit, je te pardonne. Pourquoi le Seigneur a-t-il choisi de se présenter à nous comme cela? C'est une question à laquelle nous répondrons. J'ai décidé de présenter ce message en trois points. Je puis tout par celui qui me fortifie, le Christ crucifié, le Christ dépouillé, le Christ amoureux. Premier point. Voici la splendeur de l'Évangile. Et je la proclame aujourd'hui. Dieu a envoyé son Fils unique. Le Père a envoyé son Fils dans le monde pour démontrer au monde son amour. Et son nom à ce Fils, c'est Jésus de Nazareth. Et je proclame qu'il a volontairement pris sur lui le poids de nos péchés. Je proclame qu'il a donné sa vie, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et je proclame qu'il l'a fait volontairement. On ne lui a pas pris sa vie, mais c'est lui qui a décidé de la donner. Par amour, c'est la passion du Christ. C'est la passion du Christ. Maintenant, ensemble, contemplons le Christ crucifié. Regardons-le ensemble afin d'être puissamment fortifiés en esprit. Dans Hébreux 12, il nous est dit donc, gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix. Le Christ crucifié. Oui, il a accepté de mourir. Mais vous savez, il ne s'agit pas de n'importe quelle mort. Il s'agit de la mort par crucifixion. Essayez. Écartez les bras. Écartez les jambes. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette position? Imaginez physiquement. Ne serait-ce que physiquement. Écartez les bras, les jambes. Imaginez que vous ne pouvez plus bouger sur une croix. Votre volonté dans cette position est anéantie. Votre volonté propre est anéantie. Vous ne pouvez plus rien faire. C'est un état de faiblesse et d'impuissance absolue. Il n'est pas mort n'importe comment, Jésus. Il est mort dans un état de faiblesse et d'impuissance totale. Comprenez, c'est cela que Jésus a accepté. Il a accepté l'impensable. Dieu, le Fils de Dieu, crucifié. Eh bien, tenez-vous bien. Il nous demande de le suivre sur cette croix. Mais vous le savez déjà. Il nous demande de le suivre sur cette croix. Suis-moi. Oui, il nous demande de connaître la crucifixion, nous aussi. Comme il l'a connu, le Seigneur veut que nous aussi, nous acceptions que notre volonté soit anéantie. Bras et jambes cloués, il le veut pour nous. En d'autres termes, nous devons renoncer à cette volonté propre. Ce n'est pas ce que moi je veux, ce n'est pas moi qui gouverne, mais c'est lui qui gouverne. Parce que le seul vrai péché, l'unique péché originel, c'est d'avoir refusé d'être dans une dépendance totale à Dieu. C'est ça le péché unique, dont découlent tous les autres péchés. D'avoir refusé d'être l'homme, d'être dans une dépendance totale à Dieu. À ce stade, on pourrait dire au Seigneur, écoute Seigneur, finalement, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste être chrétien en croyant que tu es mort à la croix? Toi, pour nous, le croire? Pourquoi nous aussi, nous devrions être crucifiés? Pourquoi? Nous pouvons éventuellement regimber contre la croix du Seigneur. La croix, c'est bon pour Jésus, mais pas pour nous. Mais attention, ne prêchons pas un faux évangile, mes frères et sœurs. La parole est claire, Colossiens 3:3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Nous sommes crucifiés. D'accord Seigneur, ta parole est claire. La crucifixion, ce n'est pas que pour toi, c'est aussi pour moi, pour nous, pour l'Église. C'est pour l'Église. Mais pourquoi, Seigneur? Seigneur, explique-moi pourquoi tu as voulu ça. Alors déjà, on va dire ce que ça n'est pas. Ce n'est pas parce qu'il faut porter sa croix, vous savez, à la façon doloriste. Non. À la façon doloriste, comme on l'entend parfois. Ah, j'ai des épreuves, je porte ma croix. Ah, je souffre, je porte ma croix. Non, ça, ce n'est pas l'évangile. Non, ce n'est pas ce que dit la parole. Ça, pour moi, c'est une aberration fabriquée par un esprit religieux et qui flatte la chair. Ce n'est pas cela. Pourquoi faut-il que moi aussi je sois crucifié, que l'Église soit crucifiée? Déjà parce que la première étape avant la résurrection, c'est la mort. Comment voulez-vous qu'on ressuscite si on n'est pas mort? Et oui, il n'y a pas de résurrection sans la mort. Il y a une logique. On veut la résurrection, la vie de résurrection, alléluia! Oui, mais... Et l'étape qui précède alors la mort, tu ne peux pas ressusciter sans la mort de Christ. mais surtout, le Seigneur le veut parce que c'est ainsi, c'est en acceptant cette mort à la croix, mourir à notre volonté propre, comme Jésus l'a fait. C'est ainsi que nous deviendrons semblables à lui. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre moyen. Semblable à lui parce que c'est par amour qu'il a été crucifié. Et nous aussi, c'est par amour que nous disons oui à la crucifixion. C'est par amour. Nous serons semblables à lui. Je vous assure que nous ne pourrons pas apprendre l'amour autrement. L'amour vient de Dieu, pas de nous. Donc, il nous faut laisser Christ vivre en nous, comme l'a dit Galate. Mais pour le laisser vivre en nous, il faut laisser la place. Il ne peut pas y avoir deux volontés dans un même corps. Il en faut qu'une pour diriger. Il y en a une qui doit diriger. Donc il y en a, l'autre doit laisser la place. Amen. Un tout petit exemple concret. Alors, pas forcément celui que vous attendriez, mais ce n'est pas grave. L'offense. Un vrai fléau dans l'Église, l'offense. Un fléau. Tant et tant de chrétiens qui trébuchent et qui chutent. Et qui même parfois sont détruits par l'offense. Il y a une chose magnifique que moi je veux. Je ne sais pas vous, mais moi je la veux. Je veux l'avoir parfaitement accomplie en moi. Ce n'est pas encore le cas. Je le confesse. Mais je veux cette chose magnifique dans ma vie quotidienne. Et cette chose, je la veux avant les miracles, avant les prodiges, avant les guérisons, avant toutes ces choses que je veux aussi. Je veux cette chose avant toutes les autres. Je veux que quand un proche m'adresse une critique injuste, je veux ne pas broncher. Je le veux. Vous savez pourquoi ? Parce qu'un mort ne peut pas bouger. Si je ne bronche pas, cela voudra dire que j'aurai appris par Christ, j'aurai appris par mon Christ crucifié à dépendre de lui seul et non de ma propre justice. Si je ne bronche pas, ça veut dire que j'aurai assez aimé le Seigneur pour aimer celui qui m'offense. Et dire comme Jésus sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Si je ne bronche pas, j'aurai réussi. C'est cela la mort. Je pourrais dire « Alors je puis tout par celui qui me fortifie. » Je peux aimer mes offenseurs par le Christ crucifié. Alors quand on nous offense, regardons. Arrêtons-nous juste pour regarder le Christ crucifié. Et recevons sa puissance. La puissance du Christ crucifié. Pour vaincre l'offense. Deuxième point. Je puis tout par le Christ dépouillé. On revient à notre texte, Hébreux 12, gardons les yeux fixés sur Jésus dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. De quelle honte s'agit-il ici ? De quelle honte ? Il s'agit de la honte que l'on peut éprouver lorsqu'on est dépouillé de tout ce qui fait notre dignité. Je vous pose une question. Si on vous enlevait vos vêtements, rien que vos vêtements, seulement vos vêtements, en public, quel sentiment éprouveriez-vous ? De la honte ? Eh bien, C'est ce qui est arrivé à Jésus. Sauf qu'à Jésus, il lui a été ôté bien plus que des vêtements. Tout d'abord, le Fils de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est arrivé nu sur la terre. Il est arrivé nu sur la terre, physiquement nu, comme un nouveau-né, mais surtout spirituellement. Car il est écrit qu'il a été dépouillé, qu'il s'est dépouillé, pardon, c'est important, et ce n'est pas pareil. Car il est écrit qu'il s'est lui-même dépouillé de sa gloire pour s'incarner dans la condition humaine. C'est donc dans le dépouillement que Jésus est né. Il est né dans la nudité et dans le dépouillement. Et c'est dans le même dépouillement que Jésus, frères et sœurs, est mort. Oui, car contrairement aux représentations dont nous avons l'habitude, il est quasi certain que Jésus était totalement nu sur la croix. Totalement nu sur la croix, physiquement. C'est quasiment un fait historique, car à l'époque, on dénudait les condamnés avant de les clouer sur le bois. Les évangiles confirment cette nudité. Les soldats ont bien partagé ses vêtements et ils ont tiré au sort sa tunique. Donc il ne les avait plus sur lui. Il a été exposé à l'indignité, abreuvé d'insultes. Jésus est mort nu. Il s'est offert à nous nu. Mais il a été dépouillé de plus que ses vêtements et de sa tunique. Il a été dépouillé de la présence du Père. Mais écoutez bien, frères et sœurs, le texte d'Hébreux nous dit que notre Seigneur n'a pas tenu compte de cette honte. Le texte nous dit qu'il n'a pas tenu compte. Non pas qu'il ne l'ait pas éprouvé, il l'a éprouvé. Mais, parce qu'il était aussi humain, mais il a refusé d'accorder de l'importance à cette honte, parce que c'était sa décision de se dépouiller, par amour pour nous. On le voit clairement lorsqu'il lave les pieds des disciples lors du repas de la scène, car ce jour-là, il retire lui-même ses vêtements. Vous voyez, ce n'est pas un hasard. Déjà, cela préfigurait cette nudité sur la croix. Dans Jean 13, il nous est dit, il se leva de table, vous savez, c'est le repas de la scène, il ôta son vêtement de dessus et prit un linge dont il s'entoura la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Vous aviez déjà prêté attention au fait que Jésus, avant de laver les pieds des disciples, il a ôté son vêtement. Il s'est dénudé, il s'est déshabillé. Jésus s'humilie et s'abaisse volontairement, non seulement, mais en plus. L'acte ultime, il ôte ses vêtements. Jésus est allé tellement loin, tellement impensable à l'époque pour un rabbi, un maître, de faire cela. Jésus est allé tellement loin. On parle de Dieu là, on parle du créateur de l'univers. Il n'y a qu'un amour fou, il n'y a qu'un amour complètement fou pour faire cela. Mais attendez, ce n'est pas fini mes amis, car là encore le Seigneur nous demande de le suivre. Là encore le Seigneur nous demande de le suivre dans cette nudité et dans ce dépouillement. Car dans le passage du lavement des pieds, il poursuit en disant « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme je l'ai fait pour vous. » Je vous le déclare, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et un envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez cela. Vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Heureux. Oh, Seigneur. Donc nous aussi, nous devons nous laver les pieds les uns aux autres. Bon, pas forcément physiquement, mais pourquoi pas ? Certains le font dans certaines églises. J'ai rien contre. Pourquoi pas ? Mais se laver les pieds, ça veut dire être serviteur les uns des autres. C'est ça que ça veut dire. Serviteur des uns des autres. Mais selon le modèle de Jésus. Or, ce modèle nous enseigne que nous ne pouvons pas servir sans ôter nos vêtements. Nous ne pouvons pas nous servir les uns les autres sans ôter nos vêtements. Nous devons ôter nos vêtements pour nous servir, les uns les autres. On suit le maître, il a ôté ses vêtements, il a lavé les pieds, nous aussi. Si on veut servir, on ôte nos vêtements. Mais que signifie alors, pour nous, ôter nos vêtements ? Alléluia. Le vêtement symbolise ce que nous faisons paraître à l'extérieur. Ce que nous croyons être, soit pour nous valoriser, soit pour cacher notre misère, comme Adam et Ève après la chute. Bref, je veux parler de tout ce que nous avons mis en place, consciemment ou inconsciemment, pour nous construire une identité. Nous avons tous mis des choses en place. Mais cette identité n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie, cette identité. C'est une apparence, c'est un miroir aux alouettes. Elle est pleine d'artifices, de faux-semblants. Complexe de supériorité, d'infériorité, besoin de reconnaissance, méfiance, jalousie, sentiment de rejet. Et j'en passe. Tellement complexe l'âme humaine, la psyché humaine, nos fausses identités. Mais, frères et sœurs, il est impossible d'aimer notre prochain. Il est impossible de nous aimer les uns les autres avec ces identités-là. Ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. On va se blesser, on va s'épuiser, on va s'égratigner, on va se faire mal, on va saigner. On ne peut pas s'aimer avec cette identité-là, cette fausse identité. Il faut y renoncer, s'en dépouiller, ôter nos vêtements. Tout ça, ce sont des barrières qui entravent l'unité dans le corps de Christ. Quand on vient avec sa personnalité, quand on vient avec ses choses, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi nous devons donc renoncer à ces fausses identités afin de recevoir notre vraie identité, celle du Christ. Quand je sais qui je suis en Christ, qui je suis en Christ, je peux aimer les autres et les servir. Mais avant d'être revêtu de cette identité, c'est toujours pareil. Je veux être revêtu de ton identité, Seigneur. Je veux être revêtu de ta robe. Oui, mais d'abord, déshabille-toi. Il y a une logique. C'est comme pour la mort et la résurrection. Il y a une logique. Bartimée, il a ôté son manteau, l'aveugle. Il s'est élancé vers Jésus, mais avant, il a ôté son manteau, son vieux manteau, afin de recevoir le miracle. Il n'est pas allé avec son manteau. Il s'en est débarrassé, il s'en est dépouillé. Pourtant, c'est sûrement tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, ce pauvre aveugle. Faisons de même. Je garde les yeux fixés sur celui qui m'assure de qui je suis. Je garde les yeux fixés sur celui qui me dit qui je suis. Sur celui qui a réussi à aimer son prochain parfaitement, Je garde les yeux fixés sur lui. Alors moi aussi, je reçois la puissance pour pratiquer le commandement de l'amour. Mais si je détourne mes yeux pour regarder ailleurs, à mes capacités, ou pire, si je commence à fixer les yeux sur les défauts de mon prochain, alors là, là c'est fini. C'est l'échec assuré. Vous voyez, la crucifixion, c'est le renoncement à notre volonté propre, tandis que la nudité de Christ, c'est le renoncement à notre identité propre. C'est sur ce Christ-là que nous devons fixer les regards. Mais frères et sœurs, soyons pleins d'assurance, car notre Christ, tout ce qu'il nous demande, il l'a déjà accompli avant. Crucifié, il a été, nu, il l'a été. Et vous savez quoi ? Il vit en nous. Il vit en nous. Il n'est pas loin dans le ciel en train de faire peser ses exigences sur nous. Non, il vit en nous. C'est lui qui le fera en nous par son esprit. Il est temps maintenant de répondre à notre question du début. Pourquoi Christ, crucifié et pas ressuscité, humilié et pas glorieux ? Pourquoi ce choix ? C'est parce que c'est la gloire de l'agneau, frères et sœurs. C'est la gloire de l'agneau. L'agneau de Dieu que nous chantons a une gloire qui lui est propre. La gloire de l'agneau. Il faut contempler la gloire de l'agneau. Il faut s'arrêter pour la regarder, s'il vous plaît. C'est le choix de Dieu. C'est la gloire qui ne frappe pas les yeux. Pourquoi le Seigneur a choisi cette gloire ? Parce qu'il fallait qu'il s'abaisse jusqu'à nous. Il fallait qu'il s'abaisse jusqu'à nous, à notre niveau. Qu'il entre dans notre misère. S'il n'avait pas fait cela, s'il était venu comme un lion, dans toute sa puissance, nous aurions été pulvérisés. Et il n'aurait pu nous sauver. C'est la gloire de l'agneau. Et la gloire de l'agneau s'attache à l'amour. C'est celle qui s'attache à l'amour. Au point que vous savez, dans l'Apocalypse, ce matin dans la voiture, le Seigneur m'a donné ce flash. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en diapo. Mais je vais le lire. Oh, si j'y arrive. C'est dans Apocalypse 5. Apocalypse 5. Alléluia. Jean, l'apôtre, a eu une vision. Vous savez, le livre des Révélations, l'Apocalypse. Il nous est dit qu'à un moment donné, il a vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait le faire. Et Jean dit, je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et là, au verset 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les sept sceaux. Et je vis, donc Jean est consolé par cette parole, il regarde. Et il dit, et je vis au milieu du trône, et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau. Un agneau qui était là, comme immolé. Dans le ciel, dans la gloire, l'agneau est là. Il est toujours là, c'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. C'est cette gloire qu'il a choisie. Mais je me suis dit, mais Seigneur, j'ai bien lu. Le vieillard a dit à Jean, Voici le lion de la tribu de Juda. Le lion, c'est lui qui a vaincu et qui va ouvrir le livre, qui peut ouvrir le livre. Donc, quand Jean regarde, moi je m'attends à ce qu'il voit un lion. Mais je m'attends à ce qu'il voit le lion de la tribu de Juda. Mais là, il nous dit, je vis l'agneau, ô Seigneur. Vous comprenez, mes frères et sœurs, où est la vraie force ? La vraie force, c'est celle de l'agneau. La vraie puissance, c'est celle de l'agneau. Que personne ne méprise la gloire de l'agneau. Notre troisième point, je puis tout par le Christ amoureux. Toujours notre passage d'Hébreux 12:2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Frères et sœurs, quelle est cette joie qui lui était réservée ? Je vous demande, quelle est cette joie qui lui était réservée ? Frères et sœurs, tout ça, il l'a supporté. Tout ça, il l'a accepté. La croix, le dépouillement. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Dieu fait tout pour un but. Voilà, j'ai plus de... Mon temps est écoulé. Dieu fait tout pour un but. Alléluia. La parole déclare que l'Éternel a tout fait pour un but. Proverbe 16:4. Alors voilà ma question. Lorsque Dieu a créé l'humanité, quel était son but ? Jésus a tout fait en vue de la joie qui lui était réservée. En vue. Donc il a un but. Et la parole est cohérente. Dieu a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Alors, quel était son but ? C'était quoi son but ? J'entends pas. Que nous l'adorions, la vie éternelle, qu'on se réconcilie avec le Père, amen, qu'on l'aime, avoir son épouse. Tout est question d'amour, frères et sœurs. Dieu est amour, vous voulez qu'il ait quoi comme autre but ? Dieu est amour. Son but, c'est encore l'amour. L'amour de nous. L'amour partagé entre lui et nous. Voilà son but. Vous savez, quand on aime quelqu'un, bon, disons-le plus clairement, quand un homme aime une femme, qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? Oui. Et donc, qu'est-ce qu'il veut ? Amen. Merci Raphaël. Un mariage. Il veut s'unir à cette femme pour toute sa vie. Mais ce n'est que le reflet des choses célestes, pas nous qui avons inventé le mariage. Ce n'est qu'une pâle imitation du vrai mariage. Le seul, l'unique, le vrai mariage. Celui de Christ et de son épouse. Seigneur. Et la bonne nouvelle, c'est que cette épouse, c'est nous. C'est nous ! Nous ! Non. On ne se rend pas compte, là. Nous, l'épouse de Christ. Nous, mariés avec Christ. C'est nous qui l'a choisi. Ô Seigneur, de toute éternité, Dieu avait tracé pour nous une destinée éblouissante. Le règne de notre Seigneur sera établi avec son épouse. Il y a un passage qu'il nous faut lire. Apocalypse 19, 5, 7. « Et du trône partit une voix. Louez notre Dieu, disait-elle, vous tous ses serviteurs, et vous qui le révérez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait, Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée. Frères et sœurs, c'est pour cette destinée que nous avons été créés. C'est pour cette destinée que nous avons été justifiés par le sang de l'agneau, puis adoptés par le Père. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes en marche vers les noces. Nous sommes de passage. Nous sommes en marche vers les noces de l'agneau. Notre mariage avec l'agneau. Avec Christ, préparons-nous. Le règne de notre Seigneur, le règne, ne sera pas établi sans nous, sans l'épouse. C'est avec nous qu'il veut régner, ô Seigneur. Quelle joie ce sera. Quand j'étais convertie, tout juste convertie, je me disais, oh, si je pouvais te voir, juste te voir face à face, Seigneur. Pour moi, ce serait, voilà, je veux te voir, Seigneur, face à face, sans voile. Mais là, non seulement nous le verrons, mais nous serons unis à lui, sans voile, pleinement, dans une union éternelle d'amour. Le passage de l'Apocalypse nous décrit la joie de la foule. Vous voyez la joie de la foule ? La foule exulte de joie. Quand il y a un mariage, la foule des invités est dans l'allégresse, c'est vrai, non ? Les invités sont heureux, ils jettent des confettis, vive les mariés, etc. Et c'est ça. Mais dites-moi, si la foule est dans l'allégresse, combien plus grande est la joie du marié ? Combien plus grande est la joie du marié ? De la foule ou du marié ? Lequel a la joie la plus grande ? Et vous voyez ici cette joie déjà de la foule ? Mais la joie du marié est supérieure. En vue de la joie qui lui était réservée. Jésus attend. Jésus a travaillé pour ça. Jésus a souffert pour ça. Mais il sera récompensé. Alléluia. Un Christ amoureux. La joie du marié est notre force. La joie du marié est notre force. Contemplons la joie du marié. Contemplons notre fiancé. Gardons les yeux fixés sur lui, notre Christ amoureux. Alors quand c'est dur, quand nous souffrons, je ne sais pas ce que vous traversez, mais je sais que tout le monde a son lot. Quand nous souffrons pour différentes raisons, quand ça devient difficile d'aimer, gardons les yeux fixés sur celui qui nous fortifie. Contemplons-le en tant que notre fiancé. Et un petit conseil, avant de vouloir aimer à tout prix le Seigneur, aimer à tout prix le prochain, déjà, et souvent par nos propres forces, déjà, commençons par relâcher la pression. Relâchons la pression. Laissons-nous aimer par le Christ. Laissons-nous aimer par notre fiancé. C'est lui qui nous a aimés le premier. Lorsque Lazare tombe malade, ses sœurs lui envoient dire « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Celui que tu aimes. Pas Elles disent pas « Hé, Jésus, Lazare, celui qui t'aimait, est malade !» Non, 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 non. Celui que tu aimes. Jean, l'apôtre qui mettait la tête sur la poitrine de Jésus, il est toujours dit de lui « celui que le Seigneur aimait ». Il n'est pas dit « celui qui aimait le Seigneur ». Et pourtant, il aimait, non ? Puisqu'il mettait sa tête. Mais il est dit « celui que le Seigneur aimait ». Relâchons la pression. C'est lui qui nous aime. C'est lui. C'est son privilège souverain de nous aimer le premier et plus que nous. C'est son privilège. En conclusion, mon frère, ma sœur, toi qui aimes le Seigneur et qui veux obéir aux deux grands commandements, prends courage. Prenons courage et disons à notre âme, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis m'oublier moi-même. Je puis abandonner ma volonté propre. Je puis renoncer à mon identité propre. Car je préfère la volonté de celui qui m'aime. Je préfère l'identité de celui qui m'aime. Alléluia. Je voudrais qu'on finisse par la prière. Est-ce que ma sœur Laurence est là ? Viens, Laurence. Viens, Laurence, priez pour nous.
Seigneur Jésus, te dire que tu nous suffis. Nous voulons être des amoureux de ta présence. L'homme a écrit, l'homme a fait des étiquettes. Mais toi, tu rassembles ton peuple pour t'adorer, toi, le seul vrai Dieu. Ô Esprit de Dieu, Esprit de révélation, sois le maître en nous. Viens nous convaincre que Jésus ne doit pas être simplement notre sauveur, mais notre Seigneur. Embrase nos cœurs, Père de ton amour, cet amour qui est incompréhensible, humainement parlant, parce que cet amour n'est pas humain, il est divin. Père, merci pour ta grâce et la révélation de qui tu es. Parce que sans cette révélation, nous avançons dans la chair. Mais par la révélation de ton esprit, de qui tu es vraiment, alors c'est guidé par ton esprit, dans cet esprit d'amour, de paix, de joie, d'abondance, parce qu'il y a d'abondance grâce, il y a d'abondante grâce devant ta face, Père. Viens sonder nos cœurs. Oh Seigneur, nous voulons ton cœur dans nos cœurs, cette connexion divine qui, humainement parlant, impossible, mais ce qui est impossible aux yeux humains est possible avec toi. Nous t'honorons, Esprit de Dieu vivant. Nous t'adorons, tu n'es pas qu'un vent, tu es une personne. Et sans toi, Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. À toi, notre révérence, à toi, cette adoration. Toi qui glorifie le Père, Esprit de Dieu. Toi qui glorifie Jésus. Fais ce que toi tu as décidé. Nous sommes d'accord avec tes projets. Nous sommes d'accord avec ta volonté. Quelles que soient les dénominations, ton peuple t'adore, Père. Et ce que nous voulons, c'est t'adorer en esprit, en vérité. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis.